38, chapitre 6, Mishnah 7. Amar Lishnaim. On a dit dans la Mishnah précédente, on a étudié, que si le mari a dit à deux personnes, écrivez un guet à ma femme, tant qu'il n'a pas dit explicitement, écrivez et donnez le guet à ma femme, on considère qu'il est en train de, plaisanter. C'est une plaisanterie, peut-être de mauvais goût, mais c'est une plaisanterie. On a eu que des cas extrêmes, dans lesquels on a dit par exemple celui qui va être mis à mort, Dieu préserve, ou bien celui qui va faire une longue route sur mer. Que là, dans ce cas-là, hein, même s'il a dit uniquement écrivez, on considère que il voulait dire écrivez le guet pour ma femme et donnez-lui. Et si c'est pas un cas extrême comme ça, dans un cas standard, quand un mari demande à deux personnes écrivez un guet à ma femme, on considère que c'était une simple plaisanterie. D'accord ? Donc, on ne donnera pas le guet à la femme. Maintenant, la Mishnah continue. Amar Lishnaim, si le mari a dit à deux personnes, tenu get leishti, donnez un get à ma femme. Donc il leur a pas dit, écrivez et donnez. Vous voyez la différence avec la Mishnah d'avant? Dans la Mishnah d'avant, il leur a dit, écrivez un get à ma femme. Là, on a dit que, normalement, tant qu'il ne dit pas donner, ben, on donne pas. Là, c'est le contraire. Là, c'est un mari qui parle à deux personnes, qui leur dit, donnez un get à ma femme. Donc pour donner un get, il faut bien l'écrire. Ça. Ou bien, oh, l'ishlocha, ou bien s'il a dit à trois personnes, kid vous get, ou tnou leishti. S'il a dit à trois personnes, écrivez un get, et donnez-le à ma femme. Pourquoi la Mishnah veut nous dire ça? Elle veut nous dire ça pour nous dire que c'est la même valeur, que dans les deux cas, are elu, irtevu, veitnou. C'est eux-mêmes qui doivent écrire le get, et le signer. Pourquoi? Parce que même si le mari leur a dit uniquement « donnez le guet à ma femme », on considère qu'en leur disant « donnez », il a voulu dire aussi « écrivez le guet ». Donc c'est un de ces trois qui doit écrire le guet. Ou un de ces deux. Même si le mari a employé seulement le terme « donnez un guet à ma femme ». Ah, Marie-Lichloche, si maintenant le mari a dit à trois personnes « tenu guet le ishti ». Le mari dit à trois personnes « donnez un guet à ma femme ». Donc pas comme avant. Avant, j'ai eu deux cas. Ou bien, premier cas, c'est que le mari dit à deux personnes, donnez un guet à ma femme. Ou bien que le mari dit à trois personnes, écrivez un guet et donnez-le à ma femme. Là, dans ce cas-là, on a dit que c'est eux qui doivent écrire le guet et c'est eux qui doivent le donner. Ils n'ont pas le droit de demander à un sofer d'écrire pour eux. Et là, maintenant, on a un nouveau cas. Si le mari s'adresse à trois personnes, donc il y a une nuance, et il leur dit, tenu guet le ishti, donnez un guet à ma femme. Il leur dit pas, écrivez et donnez. Vous voyez la nuance? Donc il dit, donnez un guet uniquement à ma femme. Là, dans ce cas-là, ces trois-là ont le droit de donner, de demander à une autre personne d'écrire le guet à leur place. Pourquoi? Parce que, puisqu'il a pris trois personnes, il les a rendus comme un beddin. Ça veut dire comme ça. Si le mari prend deux personnes et il leur dit « donnez un guet à ma femme », on considère que le mari veut que ces deux personnes écrivent le guet également. Donc si c'est pas eux qui l'écrivent, ça marchera pas. Mais si maintenant, il le dit à trois personnes, alors s'il leur a dit explicitement « écrivez-vous et donnez le guet à ma femme », ben là c'est eux qui doivent écrire. Mais s'il leur a pas dit explicitement « écrivez », il leur a seulement dit « donnez un guet à ma femme », il n'y a pas besoin que c'est eux qui l'écrivent. Pourquoi? Parce que le fait qu'il a pris trois personnes c'est le nombre minimum qu'il faut pour un beddin. Donc on considère que dans sa tête, le mari il s'est dit « voilà, j'ai nommé un mini beddin, et ce mini beddin, ils s'arrangeront pour divorcer ma femme ». Donc ce mini beddin, s'il décide de payer un sofer pour écrire le guet, c'est leurs affaires. Dans la tête du mari, quand il nomme trois personnes, c'est comme si qu'il avait nommé un mini beddin. Même aujourd'hui, on voit dans la tête des gens, quand on rassemble trois personnes, quand on dit quelque chose devant trois personnes, dans la tête des gens, ça veut dire que je dis je fais devant un mini beddin. Pour un beddin, il ne faut pas forcément des gens qui soient des rabbanim. Trois juifs cachers qui sont rassemblés, ben ça peut être un beddin. Divrei Rabbi Meir, c'est la vie de Rabbi Meir. Vezo alacha et là Rabbi Chanina ish ono.
On n'en dit jamais comme ça. Ni bête à ça.
Attendez, vous allez voir. Cette alacha et là Rabbi Chanina ish ono mi bête à asurin. Cette alacha, c'est une alacha que c'est pas, il n'y a pas que Rabbi Meir qui nous dit. C'est une alacha qui nous a été ramenée aussi au nom de Rabbi Akiva. D'accord. Donc Rabbi Chanina ish ono. Alors, enfin, Rabbi Akiva pendant une certaine période de sa vie était en prison. Et quand il était en prison, celui qui allait lui rendre visite, c'était Rabbi Chanina. Homme d'Ono. Il y avait une ville qui s'appelait Ono. D'accord? Ish Ono. Et donc il allait le rendre visite en prison, et il ramenait des divrei Torah de Rabbi Akiva. Donc Rabbi Chanina était considéré quelqu'un de fiable. C'est-à-dire quand il disait un divrei Torah, on savait que ça venait de Rabbi Akiva. Il disait pas peut-être qu'il a mal répété. Donc on nous raconte, on nous dit que Rabbi Chanina Ish Ono a répété le même divrei Torah de la bouche de, la même halakha de la bouche de Rabbi Akiva. Donc apparemment, Rabbi Meir n'est pas le seul à le penser, mais Rabbi Akiva qui est d'accord aussi avec lui.
Rabbi Akiva n'est pas nommé, non ?
Non, il n'est pas nommé, non. C'est commentaire. Parce que quand on dit Rabbi Hanina Ish Ono, ça veut dire c'est celui qui était, c'était le celui qui répétait les paroles de Rabbi Akiva en prison.
Porte-parole.
Le porte-parole, non, celui qui allait le voir, bon. Mekoubal Ani Beomer Lishlosha. Il dit comme ça. Alors, il y a une halakha maintenant aussi que donc Rabbi Hanina Ish Ono, il a répété donc de la prison, il a répété cette halakha qu'on vient de dire, et il a dit aussi une autre halakha, il a dit la chose suivante. Mekoubal Ani Beomer Lishlosha. Il a dit, j'ai entendu la chose suivante de la bouche de Rabbi Akiva. Si un homme dit à trois personnes, c'est nous get les ishtit, donnez un get à ma femme. Sheyomru l'acherim veirtevu, que dans ce cas-là, ils pourront dire à d'autres personnes, et ils pourront écrire, mipne shasan beddin, puisqu'il les a rendus comme un beddin. Donc on voit clairement que Rabbi Hanina Ish Ono a répété au nom de Rabbi Akiva la même chose que Rabbi Meir. Quand il a dit, voilà ce que j'ai entendu au nom de Rabbi Meir, que le fait d'avoir nommé trois personnes, c'est considéré, c'est page 48, le fait d'avoir nommé trois personnes, c'est considéré comme si qu'on avait nommé un beddin. Et la Mishnah continue et dit Af anu mekubalim. Elle dit que nous aussi on a reçu. Donc là c'est plus le nom de Rabbi Akiva. C'est quelque chose qu'on a reçu de maître en élève. Shafilu amar le beddin agadol chez Yerushalayim. Que même si il a dit au grand beddin, au grand tribunal à Jérusalem. Ça veut dire mieux que ça, il y a plus fort que ça, il n'y a pas. Quand un beddin plus grand que ça, il n'y a pas. C'est le grand beddin à Jérusalem, c'était le beddin auquel on envoyait tous les cas que les mini-sanhédrines n'arrivaient pas à traiter. Dans chaque ville, il y avait un mini-sanhédrine de 23 juges. 23 juges qui étaient très forts. Et les cas qu'ils n'arrivaient pas à traiter, on envoyait au grand beddin à Jérusalem. Le grand beddin, eux, ils étaient capables de traiter de tous les cas. Je ne sais pas si on a un équivalent de ça aujourd'hui. On a un équivalent aujourd'hui, un beddin qui traite que les cas extrêmes, un tribunal qui traite que les cas extrêmes.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Ça veut dire, eux, on les dérange que pour les cas extrêmes. Donc, et ils sont combien?
Ils sont pour rejuger.
Pas beaucoup.
C'est pas les cas extrêmes. C'est quand tu fais appel, à la fin, ça arrive.
On fait appel.
On va en conseil d'État et après on va à la cour de Bruxelles.
C'est on fait appel. Si je fais appel,
c'est pas d'accord.
Le jugement, il n'est pas bon, mais il peut être alourdi.
D'accord, oui, mais attendez, je fais appel, mais si c'est la loi, c'est la loi.
Non, il y a trois jugements.
C'est pas des lois, c'est même si ça a été jugé.
Il y a trois possibilités. Il y a jugement, appel, et puis après.
Mais si c'est la loi, je ne peux pas aller à l'encontre de la loi.
Mais la loi, elle permet justement d'aller. La loi, elle permet. C'est la loi qui autorise.
Chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, le grand beddin traitait uniquement des cas particuliers.
Oui,
mais quand c'est un cas où on connaît la halakha, c'est fini, le jugement est là et c'est fini. Hein.
Maintenant, là, c'est rejugé. C'est
d'accord,
différent.
Compris.
Et quand le mari dit une chose, la femme dit une chose. Ah. Où est la loi?
Il y a une loi, il y a des lois pour ça. Qui on doit écouter dans quel cas, comment?
Oui, mais avant de...
Le mini beddin, il est capable de gérer ces histoires.
Oui, mais le mini beddin, il a été consulté. Et donc, il se déclare incompétent, il se fait
l'affaire. Ouais. Mais en général, il était compétent. Hein. C'est très rare qu'on dérangeait le grand beddin.
Oui, mais
quand c'était pour des affaires d'argent, on pouvait faire un beddin de 3. Quand c'était pour des affaires où c'était des affaires criminelles, là dans ce cas-là, on devait déranger le beddin de 23. Et si eux n'arrivaient pas à arriver à une conclusion, des fois ça arrivait qu'on n'avait pas assez de preuves, par exemple. Voilà.
C'est pareil, il y a les assises ou il y a le tribunal.
Donc là on envoyait au grand beddin. Et des fois le grand beddin aussi n'arrivait pas à trancher. Hein. Donc, ils disaient comme ça, c'est une parenthèse tout ça. Afanou Mekoubalim. Donc on dit comme ça. J'ai oublié quelque chose, excusez-moi. Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi a dit nous menons la chaliach. Rabbi Yossi a dit qu'on a dit à Rabbi Hanina, quand on a dit à Rabbi Hanina qui était le chaliach de cette halakha, c'est-à-dire celui qui nous a transmis cette halakha. Af anu mekubalim, nous aussi on a reçu. Shafilu amar le bezina gadol shibirushalayim. Que même si on a dit au grand beddin à Jérusalem, c'est nous get les ishtin, donnez un get à ma femme, ils n'ont pas le droit de demander à une autre personne d'écrire le get. Ah, ça c'est une nouvelle halakha qui nous dit ici. Lui, il n'est pas d'accord, Rabbi aussi. Qu'est-ce qui vient, Rabbi Hanina? Rabbi Hanina, il dit, j'ai entendu de Rabbi Akiva en prison, il a dit que quand on a dit devant un minimum de 3 personnes, c'est considéré comme si que... Je suis avec M. Daniel. C'est considéré comme si on l'a dit devant un beddin, et le beddin peut se réserver le droit de demander à quelqu'un d'autre d'écrire le get. Rabbi aussi dit, toi t'as entendu de Rabbi Akiva, moi aussi j'ai entendu le contraire. J'ai entendu que même si un homme un mari il va devant le grand beddin, grand Bedin de Jérusalem, et qui leur dit, écrivez un guet à ma femme, et qu'aucun des rabbins sait écrire. Ils ont un sofer qui est là pour ça, mais ils savent pas écrire. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Sheil medou, vertez-vous, veitnou. Ils devront apprendre à écrire, à être sofer, et au moins un des juges devra écrire. Donc il a entendu le contraire, en d'autres mots. Même si c'est un grand Bedin, ils ont une structure, etc. S'il leur a dit, écrivez un guet à ma femme, et entre temps, il s'est sauvé. Ce qu'ils font le Bedin, eh ben, il y en a un qui va apprendre à, il va apprendre à écrire, et il va écrire le guet. Donc il a entendu le contraire de Rabbi Akiva et le contraire de Rabbi Meir. Donc on a une marloquette. Amar la Sarah, s'il a dit à 10 personnes, quitte vous guette les ishti. S'il a dit à 10 personnes, donc il a dit, imaginez-vous un mari qui rentre dans une synagogue avant de se sauver, il dit à 10 personnes, écrivez un guette à ma femme. Echad kotev ou shneim protmim. Donc le minimum qu'il faut, c'est qu'il faut un qui écrive, bien sûr, et il faut deux autres personnes parmi les 10 qui signent. D'accord ? Pas besoin que tous les 10 signent. Par contre, s'il a dit Kulchem kitvu, tous écrivez, Echad Kotev, Kulam Khotmin, un il doit écrire, parce que bon, on n'a pas 10 000 qui peuvent écrire, mais Kulam Khotmin, tous doivent signer. Les Sirar, c'est pour ça, Immet Echad Mehen, Reze Get Batel. Si un de ces 10 là est décédé avant qu'on a signé sur le get, c'est un get qui est annulé puisque le get n'a pas été fait à la demande du mari. Vous voyez comment dans le get, c'est beaucoup plus fort que le mariage, puisque dans le get, on voit que n'importe quel petit détail peut invalider le get. Dès que ça n'a pas été fait exactement comme ce que le mari a demandé, ou qu'il y a un petit détail qui change, tout de suite le get il saute. C'est pour ça qu'il y a tellement de halakhot, tellement de lois, comme pour essayer d'analyser ce que le mari a dit, qu'est-ce que le mari voulait, surtout s'il n'est pas là. Alors là vous voyez par exemple, est-ce que le mari voulait que les 10 personnes signent ou pas? Donc on a eu, ça dépendait de la formulation du mari. Si le mari dit à 10 personnes écrivez un get, ça veut dire que la responsabilité est sur vous. Donc il suffit que 2 signes et c'est tout.
Et s'il meurt en 30 ans le mari, pendant que le guet il voyage?
Ah non, là
il n'y a plus de guet.
Pas de guet.
Bah attends, il a divorcé avant d'être mort.
Il n'a pas divorcé. Il faut que le guet soit remis dans les mains de la femme ou dans les mains de l'ayant droit de la femme.
Ouais.
Enfin, du vivant du mari.
Et comment c'est qu'il est vivant? Quand c'est à 10 ans?
On a, ça on avait dit avant les vacances. Ouais. On a dit qu'on a une présomption.
Une
présomption qu'il est vivant.
Selon les villes.
Mais on avait dit effectivement, si c'est quelqu'un qui était qui allait presque partir.
Un nombre de jours aussi.
Non, mais il a eu un accident, mais on le sait pas, on est à 1000 km.
Pour se remarier.
À l'époque, il n'y avait pas l'avion ni le téléphone.
À l'époque, si c'était quelqu'un qui était malade, on ne pouvait pas divorcer.
Un accident.
Quelqu'un qui était très malade, on ne pouvait pas divorcer. Si c'était à distance, parce qu'on ne sait pas.
Il faut les ramener, sinon la femme à proximité, ensemble.
Ouais, mais bon, si c'est un divorce, ça veut dire qu'elle n'a pas envie de revenir.
Au moins, oui, si tu veux faire pour la fille, elle a peut-être qu'elle a envie.
Ah, peut-être qu'elle a envie.
Elle a peut-être qu'elle a envie, forcément. Elle peut peut-être divorcer avant que de.
Est-ce que bon. C'est plus intéressant pour elle, c'est soit veuve ou divorcée?
Ah, c'est ça.
Alors, on passe maintenant, regardez encore, c'est pas fini, il y a beaucoup d'alakhot très particulières, beaucoup d'alakhot très particulières par rapport au guet. D'alakhot que vraiment, on retrouve que dans le guet. Pour vous montrer à quel point chaque détail est important dans le guet et que le moindre petit détail peut invalider le guet. Dieu préserve si elle n'est pas divorcée et qu'elle se remarie, c'est très très grave.
Ah, oui.
Donc, on passe au 7e chapitre, Perek Zayin. Mishé Achazo, Kourdiakos.
Ah, ben voilà.
D'accord. Quelqu'un qui a eu une attaque. Alors c'est quoi donc, c'est quoi une attaque? Alors de quelle attaque on parle ici? Alors les commentaires expliquent que c'est une attaque qui va brouiller l'esprit d'une personne. Donc, ça veut dire qu'il sent qu'il est en train de partir. D'accord. Donc le Maïmonide explique, d'accord, Maïmonide explique que c'est une maladie de laquelle il y a beaucoup de personnes qui peuvent partir. Donc, je pense que l'équivalent d'aujourd'hui, je sais pas ce que c'était à l'époque, parce que la Mishnah ne nous dit pas, mais l'équivalent d'aujourd'hui c'est une attaque cardiaque. D'accord. Je crois qu'une attaque cardiaque, une attaque cérébrale, c'est des choses qu'en général.
C'est plus cérébral que cardiaque. Ouais. Parce que cardiaque, ça touche pas l'esprit, mais cérébral, oui.
C'est plaisant, ce cardiaque.
Alors justement, vous allez voir tout de suite. Regardez, vous allez voir. Alors, les commentaires expliquent qu'on parle ici d'une maladie qui embrouille la tête d'un homme. C'est-à-dire que quand on a cette maladie, la tête n'est plus claire. Bon, je pense que maladie cardiaque aussi, du préserve, on ne connaît pas ça, mais ça doit aussi.
Mais c'est plus cérébral.
Donc. Vamar, il a dit, quitte vous guette les ishti. Il a dit,
voilà le coupable. On est passé dans le Alléluia de Mozart.
Vamar, il a dit, quitte vous guette les ishti, écrivez un guette à ma femme. Et comme que ce soit dit dessus, même s'il a dit, écrivez et donnez un guette à ma femme, Lohamar Kloum, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. D'accord, ça veut dire que même si après, par la suite, il va se reprendre et lire à mieux, on ne se base pas sur les paroles qu'il a dit, puisqu'il n'était pas bien. Quand il n'était pas bien, on n'écoute pas ce qu'il raconte. C'est comme si il n'a rien dit. Amar, s'il a dit, quitte vous guette les ishti. Maintenant le contraire. Si un homme a dit, écrivez un guet à ma femme. Donc il était en bonne santé, il dit, écrivez un guet à ma femme. Va chazo kourdiako. Et entre temps, il a une attaque. Vechaza vehamar, attirez-vous. Et quand il était pendant l'attaque, il dit, n'écrivez pas. D'accord? Et donc ça veut dire, mais quand il a dit, il était pas bien. Qu'est-ce qu'on fait?
Compliqué.
D'accord? Alors, en dvara vacharonim klum.
C'est dur, hein?
En dvara vacharonim klum, c'est-à-dire que ses dernières paroles ne valent rien. Même s'il dit, mais je regrette, je vous promets. Pourquoi? Parce qu'il, parce qu'on considère qu'il n'est pas normal, et quand il n'est pas normal, il va savoir, peut-être que sa femme l'a énervé, ou
donc on lui
il met ça sur la tête de sa femme.
Non,
c'est, comme
pas
la, de... c'est comme la blague qu'il raconte une fois. Non, il y a... parce
que... Ça dépend, au moment où il a dit, apparemment, il est si bien.
Oui, il s'est dit, il vaut mieux que je donne un guet à ma femme, plutôt que je sois
là. Non, on ne sait pas, on ne sait pas.
Il donne quand même.
C'est comme la blague qu'il raconte une fois, il y a un homme, il est tombé malade plusieurs fois dans sa vie, il est à l'hôpital, et il appelle sa femme, il lui dit... Tu te rappelles quand je suis tombé malade il y a 2 ans, tu étais toujours à mes côtés. Et la femme avec une petite larme a répondu oui, oui, j'étais toujours à tes côtés. Et tu te rappelles il y a 5 ans, quand j'étais malade encore une fois, tu étais toujours à mes côtés. Comme ça, il continue, il lui rappelle toutes les maladies qu'il a eues 5, 10, 15 ans avant. Et la femme, elle se met à pleurer parce que bon, elle a l'impression que son mari, il est en train de lui dire que tu étais toujours à mes côtés. Le mari conclut, dit, tu sais quoi? Je crois que tous mes malheurs sont à cause de toi.
Ouais, ouais, tu portes la guine.
Donc, en dvara vacharonim klum, ses paroles ne valent rien. Ses paroles ne valent rien, puisque même s'il a regretté, puisqu'il n'était pas bien, ça vaut rien.
Lesquelles? Les dernières paroles.
Nishtatak. Alors, nishtatak, donc là on parle d'une nouvelle, là on parle d'un nouveau cas. On parle d'une personne qui est devenue muet. D'accord? Vehamrulo, et on lui a dit, Nirtovget le Ishtecha, et deux personnes qui sont venues voir, bon, bah, c'est, de toute façon, c'est pas eux qui vont se marier avec sa femme, parce que, ils n'ont pas le droit.
C'est bien donc d'accord. Cette histoire de ce que je disais.
Vehamrulo,
c'est pas normal qu'il soit devenu muet. C'est parce que c'est une attaque cérébrale, il ne peut plus parler.
Mais non, c'est un autre cas.
Oui, mais pourquoi ils l'ont collé? Je te dis que c'est ça, moi.
C'est une attaque cérébrale.
On continue. Le mec, il peut même plus parler.
Vehamrulo, ils lui ont dit, Nirtovget le Ishtecha.
Quel rapport?
Ils l'ont demandé, ils l'ont dit, est-ce qu'on écrit un guet? La vérité ici, j'ai vu, ils ont traduit par
regarde,
attaque.
Ça, regarde ce qu'il m'a dit, c'est un autre cas.
Oui, c'est un autre cas.
Oui, mais pourquoi ils l'ont mis juste après?
Mais la vérité, monsieur Bisput, c'est que vous, vous avez dit qu'on a dit que c'est une attaque cérébrale ou une attaque cardiaque, mais en vérité, ça peut être encore un autre type d'attaque. Il suffit que ce soit une attaque qui embrouille la tête de la personne. Que la personne n'a pas la tête claire. Donc je sais pas, on a peut-être d'autres...
Au point qu'à la fin, il n'arrive même plus à parler.
Quel rapport?
Crise de folie,
c'est dire maladie. Nuit autre cas. Bon, allez, monsieur Bismuth, il n'est pas d'accord, mais c'est les Mefarchim qui disent comme ça. Monsieur Bismuth, il va faire un nouveau commentaire bientôt. Bezrat Hashem. Nuit attaque.
La proximité des versets.
Mais faites-le tant que vous êtes en bonne santé. Hein.
Tu cherches un éditeur.
Attaque cardiaque et accident vasculaire.
Niche attaque.
Exactement.
C'est le cœur qui fonctionne plus.
Et qui irrigue plus le cerveau.
Qui irrigue plus la...
le cerveau.
Ça change.
La valeur cérébrale.
Allez, messieurs, on doit finir. Niche attaque, vamroulo, nirtovget, l'ishtecha. Donc si une personne est devenue, si une personne devient muet, et on lui a dit, est-ce que tu veux qu'on écrive un guet à ta femme? Virkin Burocho, il a fait un signe de sa tête, comme pour dire oui. Quand il fait un signe de sa tête pour dire oui. Votki moto, shlosha pamim. On le vérifie 3 fois. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va lui poser d'autres questions. Par exemple, on va lui demander, est-ce qu'aujourd'hui il y a des fruits qui poussent dans l'arbre? Et on est en hiver, il n'y a pas de fruits qui poussent. On va lui poser 3 questions, et on va voir est-ce que vraiment il est conscient. C'est la seule manière. Donc on va lui poser 3 autres questions, qui vont nous montrer, est-ce que vraiment il a toute sa tête? Et si il nous montre 3 fois qu'il a toute sa tête, et qu'il répond oui aux bonnes choses et non, là dans ce cas-là, Imamar al-lav-lav al-hen-hen, si sur une question à laquelle il faut répondre non, il a répondu non, et sur une question sur laquelle il faut répondre oui, il a répondu oui, par exemple, on lui demande est-ce qu'il fait jour? Il te répond non alors qu'il fait jour, c'est un problème. Dans ce cas-là, arrêtez-le, irtez-vous, veillez-nous, on peut compter sur ça pour écrire et pour donner, puisque c'est sa manière de communiquer. Même s'il n'a pas pu parler, il n'a ni écrit, sa manière de communiquer, c'est avec les signes, ouais, donc c'est caché. D'accord?
Moi, j'ai compris, si on lui dit oui, oui et non, non, ça veut dire, est-ce que tu veux vraiment divorcer? Alors, il doit dire oui. Est-ce que tu veux vraiment ne plus avoir ta femme?
Lisez les notes.
Non.
Lisez les notes.
On va être sûr de...
Vous avez des notes ici. Pourquoi vous faites vos commentaires? Hein?
C'est comme ça que j'ai vu que...
Mais pourquoi vous lisez pas les commentaires, regardez.
J'ai pas lu.
Ouais.
Bonne journée.
Voilà. En lui posant des questions judicieusement choisies.
Voilà, mais pas sur les
femmes. D'accord? Regardez, il l'examine 3 fois. Comment il l'examine 3 fois? en lui posant des questions judicieusement choisies. D'accord ? S'il dit non à non et oui à oui, d'accord ? Donc, note numéro 10, son entendement n'est pas troublé, il montre qu'il est d'accord pour le divorce.
Voilà.
D'accord ? Deux secondes. Ils pourront l'écrire et le remettre à sa femme, bien que la question posée ne portait pas sur l'écrit de l'acte, il serait écrit et remis à sa femme. C'est clair. C'est-à-dire que les questions qu'on va lui poser, il faut qu'il réponde la bonne réponse. Enfin, je ne sais pas...
Ah, ça va dire 14h.